Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 23 mars 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour. Mercredi 23 mars, notre dernière émission en direct cette semaine. Nous sommes diffusés dès midi, les lundis, mardis et mercredis. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD et @canal_M. Vous pouvez réagir aux propos de nos invités ou nous soumettre des sujets d'actualité. Le 12 mars dernier s'est tenue la conférence « Logement adapté en coopérative d'habitation » organisée par le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. On s'intéresse aux modes de logement qui sont possibles pour les aînés et les personnes en situation de handicap avec Aziz Denoun, directeur général de Groupe Ressources 2000+. Avec Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec, on parle de la course Spartan Race, l'une des plus grosses courses à obstacles au monde. Dans les prochaines semaines, plusieurs courses auront lieu à Québec, Ottawa, Montréal, mais aussi Toronto, Calgary et Vancouver. La Fondation a su profiter de l'engouement pour ce type de course extrême et en a fait une activité de financement. 23 mars, le printemps vient à peine d'arriver qu'on commence déjà à planifier nos activités de la saison estivale. La colonie de vacances est depuis toujours une expérience enrichissante pour les jeunes et en même temps, avouons-le, une des petites vacances pour les parents. Les familles avec un enfant qui a des besoins particuliers ne font pas exception. On parle avec Madame Nathalie Roy, directrice du camp Massawippi, adapté pour une clientèle vivant avec une déficience motrice, auditive ou visuelle. On commence l'émission en découvrant JuriDoc, un guide juridique à l'intention des parents ou proches de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. J'accueille en studio Madame Isabelle Molliet, coordonnatrice de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement et coordonnatrice du projet. Bonjour Madame Molliet.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Tout d'abord, quelques mots au sujet de votre association.
Écoutez, la Petite Aide, c'est une association qui a pour mission de représenter et de défendre les droits des parents, des familles, mais aussi des tuteurs et des proches aidants, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Nous offrons donc de l'accueil, du référencement, de l'aide et du support aux familles. Nous offrons également une soirée conférence par mois sur différents thèmes. Ça va de la sexualité, tutelle curatelle, au sport adapté, et j'en passe. Quatre fois par année, on publie aussi un Info Parent, qui est un bulletin d'information pour nos familles.
Et depuis quand est-ce que vous existez? Est-ce que vous êtes basé à Montréal?
Donc, on est basé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On existe depuis 1996 et on a un mandat qui recouvre toute l'île de Montréal.
Toute l'île de Montréal, 20e année d'existence.
Absolument.
D'action. Ça fait beaucoup d'activités mises de l'avant, beaucoup d'initiatives. Et la plus récente est justement ce guide juridique.
Tout à fait. Le JuriDoc, donc, c'est un guide qui s'adresse aux familles et aux proches aidants d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est surtout un guide qui se veut un outil simplifié et vulgarisé qui va permettre d'accompagner un maximum de parents et surtout qu'un maximum de personnes puissent s'en saisir de façon facile et simple.
Et ce guide-là, on parle d'un guide juridique. Mm-hmm. Il est né comment? Il y avait des besoins particuliers au niveau juridique que les parents avaient du mal à répondre?
Écoutez, ce guide, il a été créé pour répondre aux demandes de nombreuses familles puis de nombreux parents qu'on a entendu depuis des années exprimer leurs questionnements puis leurs inquiétudes. C'est des parents qui, lorsqu'ils rencontrent des personnes du réseau, sont souvent démunis et mal informés.
On parle du réseau de la santé.
Absolument, de la raison de la santé et des services sociaux. Donc, on part toujours du principe qu'une personne qui connaît ses droits est une personne qui arrive de façon plus confiante dans le réseau.
Tout à fait, pour demander et s'assurer d'obtenir les bons soins. Effectivement, qui a réalisé le guide? Vous êtes coordonnatrice du projet. Vous avez fait appel à des juristes?
Écoutez, on a travaillé avec Maître Aude Exertier, qui est une amie du mouvement communautaire. Elle a été coordonnatrice au mouvement PHASE, qui est les mouvements pour les personnes handicapées pour l'accès aux services. Et dans sa pratique quotidienne, elle travaille en droit social. C'est aussi une grosse collaboration avec notre conseil d'administration. Et puis, je tiens justement à les remercier personnellement et à remercier aussi toute mon équipe, Sophie Barlagne et Carole Lucier, qui ont travaillé très fort sur ce projet.
Je lisais aussi que ça a été fait en collaboration avec Maître Jean-Pierre Ménard, qui notamment est un des initiateurs du site web Vos droits en santé, Vos droits au pluriel, oui, justement, vosdroitsensante.com, donc qui offre de l'information gratuite à toute la population du Québec pour justement arriver à naviguer dans ce réseau de la santé qui est parfois complexe.
Et j'encourage vraiment les familles à se saisir de ce site qui est juste une mine d'or d'informations sur justement en droits et services sociaux, qui est gratuit complètement. Donc vous allez retrouver l'adresse et le lien sur notre site Internet.
On parle de système de santé au Québec, d'organisation des soins de la santé, de droits aux services de santé, services sociaux, mais on parle aussi de connaître en fait l'option de la mise en place d'un plan d'intervention, d'un plan de service individualisé pour les parents. Ce sont des choses qu'on retrouve dans le guide qu'il est important de connaître lorsqu'on a un parent avec un enfant qui a une DI ou un TSA. Avez-vous des exemples de cas de questionnements que les parents vous ont donnés et qui vous ont mis la puce à l'oreille sur l'importance d'avoir cette information-là?
Il faut savoir une chose, c'est que les parents, ils ont énormément de démarches à faire quand ils rentrent dans le réseau. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes dans un système sans en comprendre vraiment le fonctionnement et tous les rouages. Mmh. Ils font face à beaucoup de démarches et traversent un long processus souvent qui s'apparente souvent à un parcours du combattant avant d'arriver à une prise en charge pour leurs enfants, qu'ils soient enfants ou jeunes adultes ou personnes plus vieillissantes, bien évidemment. Ils sont à la fois secrétaires, c'est-à-dire ça va de la prise de rendez-vous, accompagnateurs et soutien, ce qui crée souvent un sentiment de frustration et de découragement, puis de colère parfois. Donc en les outillant, on leur permet justement de pouvoir trouver de l'information et d'y voir plus clair, souvent ce qui est le début de la démarche.
Tout à fait, de bien cibler les besoins. Parce qu'ils sont, vous parlez que vous faites beaucoup de rencontres aussi mensuelles avec votre association. Est-ce que vous avez l'impression justement que les parents se sentent démunis?
Les parents se sentent démunis. Les parents se sentent démunis parce que là, tout d'un coup, l'obstacle est énorme. La marche est très haute. Il y a énormément de choses à connaître. Le système est extrêmement complexe. Parce que le système de santé au Québec comprend deux composantes, qui sont donc le réseau santé-services sociaux qui est public, et puis des ressources qui sont de nature privée, dont on ne parlera pas dans le guide, parce que ça mériterait un guide en soi-même complètement.
Oui.
Le guide, en fait, il s'articule autour de la loi 5, je vais vous la lire, parce que je ne la connais pas de tête, qui est « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur le plan à la fois scientifique, humain, social, avec une continuité et des façons personnalisées et sécuritaires. Mmh. » Donc, via ce processus-là, on parle beaucoup du plan d'intervention, qui est souvent une base. Donc, une partie du guide explique ce qu'est le plan d'intervention, puis il y a une autre partie qui explique aussi ce qu'est le plan de service individualisé. Ces deux plans ont pour but d'identifier les objectifs à atteindre pour une personne en situation de handicap et surtout les moyens qui vont être mis en place pour atteindre ces objectifs. Mm-hmm. Le plan d'intervention, en fait, la différence entre les deux, c'est que le plan d'intervention, c'est un outil de planification qui est mis en place par un seul établissement, par exemple l'école.
OK.
Et le plan de service individualisé, ça s'est mis en place quand un usager a besoin pendant une période prolongée de services qui nécessitent la présence de plusieurs intervenants. Par exemple, un ergothérapeute, un orthophoniste, un technicien en éducation spécialisée. Mm-hmm. Ça va faire le lien, en fait, entre tout ça.
Mm-hmm. Justement, pour s'assurer qu'on travaille en concertation.
Tout à fait, et que les objectifs, surtout, vont pouvoir être réalisés et réalisables.
Oui, c'est toujours important cette notion. On parle aussi dans le guide des recours. Lorsqu'on remarque que nos droits sont bafoués ou qu'il y a peut-être des mauvais traitements, donc les recours et comment porter plainte?
Ben ça, c'est un gros mandat de l'Habitat qui, nous, on fait majoritairement de la défense de droits. Si vous pensez qu'un de vos droits n'est pas respecté, vous disposez de recours. Donc, il y a plusieurs organismes qui vous accompagne là-dedans, parce que la loi en santé et services sociaux prévoit des mécanismes du traitement des plaintes. Les plaintes concernent les services reçus donc, et à recevoir.
Mm-hmm.
Les plaintes souvent se font en deux temps. D'abord, ça se fait au commissaire local aux plaintes du Centre intégré de santé et services sociaux, les CIS, dont relève l'usager. Et en cas d'insatisfaction, l'usager ou le parent peut se retourner vers le protecteur du citoyen. Là, une plainte qui va viser le centre de réadaptation, un organisme communautaire ou, mettons, dans le résidentiel, une ressource intermédiaire ou de type familial.
Mm-hmm. Allez-y.
Une plainte, en fait, ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire verbalement et puis ça peut se faire de façon écrite. Après la réception de la plainte, le commissaire local aux plaintes doit confirmer qu'il a reçu la plainte et il a 45 jours pour y répondre. Si jamais il ne le faisait pas, là, on peut se retourner vers le protecteur du citoyen.
Mm-hmm.
Là, vous retrouvez aussi tous les liens sur notre site Internet et sur le Juridoc.
Tout à fait. Et le protecteur du citoyen qu'on a déjà reçu en entrevue pour connaître davantage son rôle. Ce sont des informations importantes à connaître. Le système de santé québécois mm-hmm. subit de nombreux changements, particulièrement dans les derniers mois. Est-ce que vous prévoyez faire des mises à jour régulièrement de ce document?
C'est un outil qui va être amené à évoluer, ça c'est certain. Pour l'instant, on vient de le terminer. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on se prête à dire, c'est qu'on veut qu'il se mette entre toutes les mains, vraiment. C'est un outil qui va permettre d'outiller les familles québécoises pour les soutenir et les informer de leurs droits. Et même si nous, notre mandat concerne l'île de Montréal, je souhaite à ce guide et j'espère qu'il va pouvoir se balader dans le Québec au complet et qu'un maximum de personnes vont pouvoir s'en saisir.
Mm-hmm, parce qu'il faut le dire aussi à nos auditeurs, le guide est disponible gratuitement.
Absolument, il est disponible gratuitement sur notre site www.apdited.com, sur la rubrique guide juridique. Vous le trouverez également différents liens sur notre page Facebook. Je tenais juste aussi à faire une petite précision, c'est que ce guide est gratuit, donc est téléchargeable, mais il y a une version audio aussi qui est disponible en ligne. Ça, c'est un travail, une collaboration qui a été faite avec l'Europe MM, qui est le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain.
Mmh, super, donc vraiment disponible en différents formats pour
Absolument.
S'assurer que l'information circule. Je rappelle que ce guide Juridoc a été lancé dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2016. Merci beaucoup, Isabelle Mollier, vous êtes coordonnatrice et à l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement, l'Habdited, c'est bon, je vais réussir à le prononcer comme
c'est
il faut.
C'est compliqué.
Et vous êtes coordonnatrice du projet Juridoc. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Il y a un gars qui me dit des mots que je veux entendre pour cacher ses défauts. Il sait toujours quoi me dire pour pouvoir me garder, même s'il doit mentir. Pour pouvoir me garder. mots que j'aime entendre pour cacher ce défaut.
Gabrielle Goulet et sa pièce « Pas plus que ça » tirée de son album « Juste toi », une parution de 2016. Une belle pièce, une belle découverte pour moi ce midi, pièce qui a du corps. Merci beaucoup à cette relève de la chanson francophone. On continue, vous êtes toujours à « Ça vaut le détour » et comme j'en parlais en début d'émission, avec l'arrivée du printemps, on commence souvent à déjà planifier les activités estivales et pour bon nombre de familles au Québec, les camps de vacances sont des incontournables. Et si on est parent d'un enfant avec des besoins particuliers, une situation de handicap, on peut avoir parfois plus de difficultés à trouver le camp de vacances approprié à notre enfant. Mais heureusement, il y a plusieurs ressources qui existent, dont le camp Massawippi, qui est situé dans la belle région des Cantons de l'Est. Et pour nous parler plus en détail de leur fonctionnement, de leur programmation, j'ai au bout du fil Mme Nathalie Roy, directrice du camp Massawippi. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour.
Donc, vous êtes déjà, en fait, on est à la fin du mois de mars. Vous commencez déjà, vous, votre planification pour l'été qui s'en vient.
En fait, la planification est déjà derrière nous. On est vraiment en mode inscription pour l'instant. Le gros boom des inscriptions se fait aussi au mois de mars. Là, il y a un petit incitatif, là, on remet un cadeau aux campeurs qui s'inscrivent avant le 1er avril.
Oh.
Donc, on est déjà bien... on a beaucoup de monde déjà qui sont inscrits. Les places commencent déjà à être limitées selon les différentes sessions, là.
Donc, on va en parler plus en détail dans l'entrevue des différents programmes offerts. Mais ouais. Tout d'abord, depuis quand le camp Massawippi existe-t-il?
En fait, 65 ans cette année, depuis 1951, que le camp est situé à Euscliffe, là, comme vous dites en intro, dans la belle région des Cantons de l'Est.
Mm-hmm. À qui s'adresse le camp?
Nous, on reçoit des jeunes de 6 à environ 30 ans qui vivent avec une déficience physique, auditive ou visuelle.
Et donc, on parle vraiment de tout type d'handicap physique. Est-ce que ça peut être conjugué aussi, par exemple, de multi-handicap physique?
On dit souvent une déficience physique majeure et si certains campeurs ont aussi une déficience intellectuelle mineure,
mm-hmm.
Mais c'est vraiment la physique qui prend la plus de place, là.
Mm-hmm.
On peut considérer. Dans ce cas-là, ça devient un cas par cas, là, parce qu'on a des campeurs quand même. Le camp est vraiment organisé, la formation du personnel est vraiment faite aussi pour prodiguer les bons soins et les bonnes techniques de transfert et de tout pour les enfants vraiment qui ont une déficience physique. Les sciences intellectuelles, c'est un autre, vraiment une clientèle différente et notre formation n'est pas axée du tout sur ça. Là.
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'on dit une majeure physique, une mineure intellectuelle, mais qui peut quand même s'intégrer. Là.
Tout à fait. Et donc, vous avez vraiment organisé toutes les activités et les soins en fonction des conditions de vos campeurs. Combien de campeurs accueillez-vous chaque saison?
En fait, on a 4 sessions qui sont offertes pendant l'été. On a 3 sessions de 12 jours et une session de 6 jours à la fin.
Mm-hmm.
Et on reçoit environ 45 à 50 campeurs par session. Là. C'est sûr qu'il y en a qui reviennent plus qu'une fois,
mm-hmm.
mais il y en a aussi qui ont seulement qu'une session, là. Ben, pas seulement, mais qui ont une vacance pendant l'été. Là.
Une vacance. Et quels sont justement ces différents types de programmes offerts?
Nous, on est vraiment situés sur le bord du lac Massawippi. Donc, les activités nautiques et aquatiques prennent une grande place ici au camp Massawippi. Le ski nautique adapté, c'est vraiment une activité qui est un hit ici. C'est toujours intéressant de voir des gens qui se déplacent en fauteuil roulant, qui peuvent faire du ski nautique. C'est comme assez unique aussi. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'en faire n'importe où. Donc, ça, c'est un programme qui prend vraiment beaucoup de place ici. Certains campeurs sont maintenant ici principalement pour ce programme-là. On fait aussi du canot, du kayak. On a un bateau ponton qui est aussi très populaire. On a quelques voiliers, des bateaux rabaska, la baignade, évidemment, dans le lac.
Mm-hmm.
Et sur le terrain comme tel, on a des activités de musique, théâtre, arts plastiques, nature, des sports adaptés aussi. Et depuis l'an passé, on est en partenariat avec l'équipe de Projet RAD,
oui.
Qui viennent faire 2 sessions intensives de danse inclusive pendant la session 2 et la session 3. Donc, les campeurs qui participent à ces sessions-là ont aussi la possibilité de faire de la danse inclusive urbaine. Donc, peu importe le handicap encore là, ce programme-là leur permet vraiment là, de bouger à leur façon et de s'exprimer. C'est vraiment un très, très beau programme. Là.
Oui, et justement, on voit vraiment la diversité d'activités que vous offrez à vos campeurs. Chacun peut y trouver ses intérêts. Décrivez-nous un peu l'environnement, les différentes, par exemple, les dortoirs, la cafétéria.
Oui, certainement. En fait, tout le camp est vraiment pensé pour des gens qui ont mobilité réduite, qui se déplacent souvent en fauteuil roulant. Donc, c'est très accessible partout. Il y a une vingtaine de bâtiments sur le camp et des dortoirs, évidemment, pour les campeurs, des cabines de style dortoir. Les garçons, les filles sont divisés, mais par groupe d'âge et non par déficience. Mm-hmm. Donc, on peut avoir on est aussi un camp bilingue. Donc, on peut avoir des campeurs francophones, anglophones, non-verbaux, des personnes sourdes, des personnes aveugles qui vivent toutes ensemble dans la même cabine. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir l'échange et les moyens qu'ils trouvent pour communiquer. Donc, ça, c'est vraiment une partie intéressante, l'intégration sociale puis mm-hmm. l'activité sociale au camp. Comment fonctionne ici, c'est que les 6-12 ans ont vraiment une programmation prédéterminée, mais les 13 ans et plus, on peut choisir leur activité. Donc, la veille de la journée, dans le fond, pendant la soirée, ils choisissent leurs activités qui sont disponibles le lendemain. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui aime vraiment participer aux activités nautiques peut toujours être à la plage, tandis que quelqu'un qui aime les activités artistiques trouve aussi son compte là, en pouvant s'inscrire à ces activités-là. Donc, ce qui permet que dans les activités de la journée, ils ne se promènent pas en groupe, mais vraiment par centre d'intérêt. Mm-hmm. Donc, en or, on peut avoir des garçons, des filles de tous les âges qui ont choisi cette activité-là, tandis qu'au sport, c'est une autre gang qui, eux autres, sont plus actifs et qui ont le goût de faire du sport ensemble. Donc, c'est le fun parce qu'ils ne sont pas pris, entre guillemets, là, de partager tous les moments du camp avec la même gang, mais ils peuvent vraiment là, rencontrer plusieurs personnes sur le site. Évidemment, la cafétéria, c'est le point de rassemblement du camp. Hein. C'est vraiment là où la vie de camp et tout se passe. Là. Quand tout le monde est là, c'est bien plein. Puis c'est vraiment le fun de l'énergie qui se dégage aussi. Là. C'est les chansons puis la dynamique qu'on a à la cafétéria. C'est aussi des beaux moments. Là.
Madame Roy, il nous reste quelques minutes. Je voudrais parler, là, on vient de parler du camp de vacances, oui. Mais il y a aussi un camp de jour à Montréal.
Exactement. On fait aussi un petit camp de jour à Montréal. Lui, c'est vraiment plus axé sur les activités artistiques et c'est vraiment plus pour les gens qui sont, à ce moment-là, c'est plus multi-handicapés. Donc, c'est un peu plus même du répit pour les parents. Mm-hmm. Mais les activités, c'est sûr, sont très actives sur les arts. Ils vont aussi se baigner dans la piscine intérieure du centre de réadaptation Mabu Mackay au site Mackay. Et on fait évidemment les activités à l'extérieur aussi. Mais comme je mentionnais, c'est une clientèle multi-handicapée qui sont là. On reçoit environ 15 campeurs par semaine, donc c'est tout petit.
Mm-hmm. C'est plus ouais. Justement de plus petits groupes ouais. Pour favoriser aussi les interactions. Je voulais aborder cet aspect sur votre site. Vous détaillez évidemment les coûts d'inscription, mais aussi le fait que vous avez un tarif pour les familles à faible revenu.
Oui, avec le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports. Le nom a changé, mais c'est ce ministère-là qui nous demande d'offrir un 15 % de rabais pour le camp de vacances aux familles à faible revenu ou aux campeurs de 18 ans et plus qui sont handicapés. Donc, ça permet là, aux gens justement d'avoir un petit rabais là, pour participer aux activités.
Comment on fait pour savoir si on est admissible?
En fait, il y a une charte qui est disponible dans le formulaire d'inscription qui vient du ministère aussi, qui, eux, établissent le montant que les familles à faible revenu doivent avoir pour avoir accès au rabais, finalement. Mm-hmm. Donc, toutes les informations sont sur le formulaire d'inscription qu'on peut retrouver sur notre site web à camsawp.com. Et peut-être, j'aimerais peut-être juste ajouter qu'on fait aussi des camps de répit maintenant,
oui.
Pendant les autres saisons. Donc, à l'automne et à l'hiver, il est aussi possible de venir au camp là, pour des week-ends, principalement pour commencer, pour un petit répit aussi pendant l'année. Là.
Est-ce que ces répits sont au camp près du lac Massawippi ou à Montréal?
Ils sont vraiment au lac Massawippi, oui. Ils sont vraiment au camp de vacances.
Et donc, ça dure un week-end et c'est l'enfant est pris en charge complètement par l'équipe du camp?
Exactement.
Donc, on sait qu'on peut se prendre finalement quelques petites vacances à l'année, pas seulement lors de la saison estivale.
Oui.
En terminant, vous disiez déjà en début d'entrevue que vous êtes en blitz d'inscription.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut s'inscrire?
Donc, l'inscription en ligne sur le site Internet, comme je disais tantôt, www.kamasawipi.com, ou encore nous contactant directement pour avoir les formulaires par courriel ou par la poste au 1-866-838-4707.
J'ai une petite question en terminant. Je me demandais pour l'inscription, est-ce qu'un parent, par exemple, a besoin de donner un formulaire médical ou quelque chose, ou c'est tout détaillé dans le formulaire d'inscription?
Dans le formulaire d'inscription, c'est vraiment l'inscription et par la suite, on a plusieurs formulaires, dont un formulaire médical très complet et un formulaire sur les habitudes de la vie quotidienne que l'équipe médicale, parce qu'on a une infirmière ici sur le site en tout temps, et que les moniteurs consultent pour vraiment assurer la sécurité et le confort des campeurs pendant qu'ils sont ici.
On voit vraiment la belle organisation de ce camp Massawippi. On vous souhaite une très belle saison 2016. Merci beaucoup, Nathalie Roy. Vous êtes directrice. Merci de nous avoir parlé quelques minutes aujourd'hui.
Merci à vous. Bonne journée.
Je souligne que le camp Massawippi s'écrit Massawippi. Donc, vous pouvez le consulter en ligne. On va mettre aussi le lien sur notre site web.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime des Pomerleaux.
Bonjour à Ça vaut le détour. Je vous invite à réagir aux propos de nos invités sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_M. On continue avec une chronique mensuelle cette fois-ci. Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec, est dans nos studios.
Bonjour,
Bonjour Sarah. Donc, je parlais déjà même d'activités estivales qui s'en viennent. Il y a un engouement vers les courses. On a remis un peu le ludique, le défi personnel dans la course. Ouais. Et on voit la multiplication des courses à obstacles depuis quelques années un peu partout. Mais il y en a une particulièrement intéressante et exigeante aussi, ouais. qui est la Spartan Race.
Oui, exactement. Ben moi, j'ai décidé de vous parler de celle-là aujourd'hui parce que on s'est associé avec la Spartan Race depuis l'année passée et c'est une nouvelle source de financement là, pour notre organisme. On a des billets à prix concurrentiel pour ceux que ça intéresse et ça rejoignait aussi beaucoup nos valeurs. Donc, c'est une très intense, comme tu disais, mais ça a beaucoup, ça mise beaucoup sur le dépassement de nos limites, le fait d'accomplir nos rêves, etc. Puis ça nous rejoint beaucoup parce que c'est ce qu'on dit souvent à notre clientèle ou à nos participants, là, nos jeunes participants aveugles lors de nos activités. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de vous parler de cette course-là.
De la Spartan Race, justement, comment cette association-là s'est faite?
Oui, bien, nous, on voulait déjà organiser une course, pas nécessairement une course à obstacles, parce que ben, c'était plus facile là, de ne pas faire d'obstacles.
De pas faire d'obstacles. Mais, pour tout le monde, c'est plus facile quand il n'y a pas d'obstacles.
C'est ça. Mais on voulait organiser une course parce que ça amenait une nouvelle façon d'approcher plus des nouveaux donateurs ou d'avoir des gens qui faisaient une collecte de fonds pour nous. Mm-hmm. Mais la Spartan Race est venue nous rencontrer parce qu'eux souhaitent approcher des causes. Ils veulent redonner le plus possible à la communauté. Et on avait les mêmes avantages. Donc, on pouvait aussi faire de l'argent sur les billets, avoir un kiosque, vendre des articles promotionnels, etc. Mais on n'avait pas à se soucier d'organiser la course, puis on s'associe avec une course qui existe déjà et qui est déjà très populaire dans le monde et qui a des obstacles vraiment intenses. Puis comme je vous ai dit, en plus, là, leur valeur, le message, tu sais, même dans leur publicité, bien, ça nous rejoignait. Donc, c'est pour ça là, qu'on a décidé de s'associer avec eux, mais c'est eux qui nous ont approchés.
C'est vraiment une belle idée, une belle initiative de leur part. On peut voir sur leur site web, parce qu'il y a une division Canada, parce qu'il y a des courses vraiment, même plusieurs fois par année, un peu partout au Québec et au Canada. Ils mettent l'accent sur tout ce qui est justement surpassement, dépassement de soi, le mode de vie aussi. Donc, c'est pas seulement on s'entraîne comme des déchaînés et on fait une course. Ils veulent qu'on intègre aussi des saines habitudes de vie, qu'on intègre justement des challenges au quotidien. Ça rejoint tout à fait la mission de la Fondation.
Oui, exactement. Et ils approchent d'autres causes aussi. Là. Je ne voudrais pas dire qu'on est les seuls, là, mais c'est ça. Ils ont plein de bonnes valeurs, en fait. Là.
Est-ce que les enfants peuvent participer à cette course?
Oui, les enfants peuvent participer. 14 ans et plus, ils peuvent participer aux courses comme les adultes. Mais sinon, même les enfants de 4 à 13 ans peuvent courir. C'est sûr que là, ça va être non chronométré, mais s'ils aiment ça, salir, il n'y a pas de problème.
Aimer salir quand on est un enfant, je pense que ça vient ensemble. Je voulais juste qu'on nomme quelques exemples d'obstacles qu'on peut rencontrer dans la course.
Oui, bien, en fait, déjà, c'est une course qui se passe un peu en montagne. Fait qu'en soi, c'est déjà un peu plus difficile. Et les obstacles, il y en a différents. Ça peut être ramper dans la boue. Ça peut être escalader un mur. Des fois même, c'est comme un mur inversé, fait que c'est encore plus compliqué. Passer sous des barbelés, sauter par-dessus du feu, escalader, bien pas escalader, mais grimper une corde. Donc, c'est quand même intense. Mais leur but, là, c'est vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Donc, les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap, les personnes qui font beaucoup d'embonpoint sont les bienvenues là, à participer à cette course-là. C'est plus un dépassement personnel là, dans ce sens-là. Mais il y en a d'autres qui vont s'entraîner intensément puis qu'eux, ils veulent faire les obstacles. Bon, bien, tant mieux. c'est pour tout le monde peut trouver là, son intérêt là-dedans. Et il y a d'ailleurs des 5 km avec 15 obstacles pour commencer, des 13 km. Les 20 km et le plus gros, c'est 42 km et il y a 56 obstacles.
42 km, c'est comme un marathon. Plus des obstacles et sauter au-dessus du feu.
C'est ça.
Quand même, c'est digne d'un jeu vidéo. Tu nous as dit au début que tu avais justement des billets à prix concurrentiel. Qu'est-ce que ça implique si, par exemple, on a envie d'acheter des billets à la Fondation? Plutôt que sur passer par le site conventionnel de la Spartan
oui.
Race.
Bien, grâce à notre partenariat à la Fondation des aveugles du Québec, on vend les billets moins chers que sur leur site Internet. On les vend 85 $ pour adultes, moins de 30 $ pour enfants. Ça peut paraître cher, mais c'est une grosse course à obstacles. C'est semblable selon les autres courses. Puis nous, c'est sûr que ça va être moins cher parce que sur le site Internet, bien, il y a des frais de service, il y a les taxes. Et plus on avance de la date, plus le prix est cher. Nous, c'est toujours le même. Puis vous êtes sûr là, que ça va être là, que ça va être le moins cher, dans le fond. Fait qu'en passant par nous, c'est avantageux, c'est certain.
Et comment... vous avez déjà réussi, c'est la deuxième année donc, que vous faites ça, comme levée de fonds. Il y a eu un bon succès la première année?
Oui, vraiment. En fait, nous, notre but, c'était ça, là, c'était vraiment d'encourager les gens à faire une collecte de fonds pour nous. Donc, on vend des billets, mais tous ceux qui organisent une collecte de fonds pour nous... on leur rembourse quand ils atteignent un certain montant. Donc, les coureurs ne payent plus leurs billets et ramassent des sous là, pour notre cause. L'an passé, on a accumulé environ 5 000 $. C'était une première, puis on était très contents parce que si on avait organisé notre propre course, on ne s'attendait vraiment pas à faire plus que ça. Et parmi là, les coureurs qui ont couru pour nous, il y en a même un qui a attendu. Il y en a un ou deux presque là, qui ont réussi à récolter presque 1 000 $. Mais tu sais, chaque sou, là, que ce soit 50 $, 200 $, 1 000 $, nous, c'est des sous de plus qui vont pour la cause, puis on est super heureux. Là.
Oui, des sous qui vous permettent de faire des activités aussi, entre autres extérieures, pour sortir les jeunes et leur permettre de vivre encore une fois des activités de dépassement de soi.
Oui, exactement. Fait qu'encore une fois, là, ça fait un beau lien avec la Spartan Race. Les coureurs, ils se dépassent pendant la course, ils vont jusqu'au bout. Ben, ça permet aussi aux enfants, eux aussi, là, de pouvoir se dépasser, de faire les activités. Puis ce qui est drôle, c'est que bon, les coureurs vont traverser des obstacles, mais ça va permettre d'enlever des obstacles pour les jeunes enfants aveugles. Donc, c'est un beau clin d'œil.
Tout à fait. On parle de courir pour la cause, pour la Fondation. Est-ce que les jeunes et bon, les adultes qui sont malvoyants, qui sont aveugles, peuvent aussi participer à la course?
Oui.
Sans risquer de tomber dans le feu?
Oui. Bien, nous, en fait, on est super heureux parce que l'an passé, on a approché la Spartan Race qui semblait ouverte et on a réussi à avoir les billets pour les accompagnateurs des personnes qui ont une déficience visuelle gratuitement. Donc, nous, ça nous permet d'offrir à nos jeunes cette activité-là. Donc, c'est une activité de plus. S'ils veulent bien, courir, on va pouvoir avoir nos mentors qui la font avec eux. On a un jeune qui l'a fait l'an passé, il était accompagné de son père. Et puisque la Spartan Race nous a dit, ben oui, on comprend l'utilité d'un accompagnateur, ils ont, c'est ouvert à tous. Donc, n'importe quelle personne avec une déficience visuelle qui voudrait être accompagnée a acheté son billet et se présenter avec son accompagnateur le jour même, et il va être accepté. Là, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres handicaps, etc., mm-hmm. mais on voit une ouverture, puis ça, c'est très, très, très apprécié.
Là. Absolument. Et donc, cette prochaine course, si on veut s'inscrire comme participant, comme coureur, comment on fait?
Oui, bien, en fait, le plus simple, c'est vraiment de me contacter. Comme ça, vous allez avoir les billets moins chers et je vais pouvoir là, vraiment tout vous expliquer et aussi vous diriger là, si jamais vous voulez faire une collecte. Alors, par téléphone, c'est le 514-259-9470 au poste 27 et par courriel, Sarah, S-A-R-A-H, à commercial, aveugle, aveugles.org. Puis, comme j'ai dit, là, ceux qui veulent faire une collecte, ça va me faire plaisir là, de les aider.
C'est quand la prochaine date, la prochaine course qui est à mettre à notre agenda?
Ah, je sais pas la prochaine, mais celle qu'on dit de Montréal, elle se déroule à All Z. Et la plus facile, 5 km, ou qu'on peut faire aussi junior en même temps, c'est les 16 et 17 juillet. Donc, ça va être vraiment cet été. Je sais qu'il y a 30-31 juillet pour les plus intenses. Mais en juillet, 16 et 17 pour la 5 km.
16 et 17 juillet, on met ça à notre agenda. Merci beaucoup, Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec. Vraiment une superbe collaboration et on vous souhaite... allez-vous la faire?
Hey, ben j'y pense. Mon chum aimerait la faire, je sais pas. On va peut-être, mais ça a l'air intense, mais pour le défi. Ouais.
Pour le défi, je pense que ça vaut la peine. Moi, je vais voir, mon réalisateur me fait des signes en régie que je devrais essayer. J'aimerais beaucoup, il faudrait que je vérifie si j'ai un accompagnateur assez brave.
Oui, c'est ça, hein?
Pour m'accompagner.
Pour trouver quelqu'un pour t'accompagner, oui, mais ça serait
ça.
Le fun.
Moi, en tout cas, je sais que je reviens toujours à cette idée du feu, mais sauter par-dessus du feu,
si tu as un accompagnateur assez fort, là, ça pourrait être bon.
Peut-être. Hein? Mais peut-être moyen d'adapter justement le segment de la course, se balancer au bout d'une corde. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Bon succès avec cette initiative.
Merci. Bonne course à tous ceux qui veulent relever le défi.
Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'ai appris, je regrette, mais moi quand je reste, j'y pense à deux fois, car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des doigts. Je ne suis pas de celles qui fauchent du regard. En moins d'une seconde, j'y pense à deux fois, car ce qui nous blesse nous tombe parfois là.
Bonjour Tristesse, une pièce de Grenadine tirée de l'album du même nom, une parution de 2014. Vraiment toujours agréable d'entendre ces notes et cette mélodie dans nos oreilles. C'est notre dernier segment de l'émission. J'en ai parlé brièvement au début de l'émission. Le 12 mars dernier, il y a eu une conférence intitulée « Logement adapté en coopérative d'habitation » organisée par le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Et à l'émission Ça vaut le détour, on s'intéresse beaucoup aux modes de logement qui sont justement disponibles, possibles et créés pour les aînés et les personnes en situation de handicap. Et pour nous parler de justement de cette vie en coopérative de solidarité, je joins au bout du fil Monsieur Aziz Denoun, directeur général de Groupe Ressources 2000+. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Donc, merci de prendre quelques minutes pour nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Tout d'abord, pour nos auditeurs qui sont peut-être moins habitués à ce concept d'habitation, qu'est-ce qu'une coopérative et quel est le fonctionnement de la vie en coop?
Une coopérative, tout d'abord, quand on voit de l'extérieur, physiquement, c'est un bâtiment ordinaire. Donc, c'est au niveau de la gouvernance qu'on voit la différence. Donc, il y a deux types de coopératives. Il y a la coopérative d'habitation, tout court, qui est gérée uniquement par les membres utilisateurs. Mm-hmm. Et l'autre formule de coopérative de solidarité qui ouvre le membership à l'extérieur. Donc, il y a une diversification du membership. Puis, c'est ça. Donc, on retrouve trois types de membres, les membres utilisateurs, les membres travailleurs et les membres de soutien, donc qui proviennent de l'extérieur du communautaire.
Et qu'est-ce que ça amène d'avoir des membres plus diversifiés dans une coopérative d'habitation de solidarité?
L'expertise, aussi l'échange, l'implication aussi des membres extérieurs, c'est pas juste les membres utilisateurs. Donc, ça fait en sorte que la coopérative est gérée par, c'est-à-dire, un membership diversifié.
Quand on parle du mode de gestion de la coop, ça veut dire par exemple, si on y habite, on doit aussi s'impliquer dans la coop.
Tout à fait. Ça, c'est un principe des coopératives. Donc, c'est géré par les membres, puis il y a une implication aussi des membres dans toutes les activités, comme les corvées, par exemple, les activités de gestion aussi, le secrétariat, l'entretien, puis la gestion, je veux dire, technique du bâtiment. Donc, il faut que les membres s'impliquent dans la gestion de l'ensemble.
Et si on prend l'exemple d'une personne aînée ou d'une personne en situation de handicap, on peut adapter les activités pour lui permettre de s'impliquer aussi au même titre que les autres membres de la coop.
Absolument, absolument. En ce qui concerne, par exemple, la coopérative du Bois-Hélène, nous autres, on a pris en considération ces contraintes-là. Donc, c'était basé, le projet de base était basé sur la coopération d'abord. Donc, on voulait offrir un milieu social qui favorise aussi l'appartenance, qui permet à différentes clientèles de vivre ensemble, différentes personnes, selon, c'est-à-dire leur capacité de vivre ensemble dans une communauté. Donc, effectivement, on adapte le fonctionnement de la coopérative en matière d'implication à la personne aussi.
Mm-hmm. Justement, ce projet de coopérative de solidarité du Bois-Hélène qui va ouvrir ses portes à l'été 2016, on parle d'un projet mixte. Qu'est-ce que ça signifie?
Un projet mixte, c'est ça. On voulait mettre en évidence un petit peu le principe de coopération, le principe de solidarité. Solidarité, ça veut dire l'entraide entre les membres, le respect mutuel aussi, l'inclusion des différents âges. Donc, il y a l'intergénération aussi, un milieu pour tous les âges, et le partage des connaissances, des expériences aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le projet social de départ.
Et quels sont les avantages de ce type de logement?
D'abord, quand on parle du logement abordable, on a toujours, c'est-à-dire, l'objectif d'avoir un logement abordable, à prix abordable, puis par la suite, un logement de qualité, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on vise, c'est-à-dire le logement abordable.
Et il y a tout de même d'autres avantages que seulement l'accessibilité financière, parce qu'il y a aussi des aspects de sécurité, de prise en charge du milieu de vie. Lorsqu'on travaille à la mise sur pied de ce type de coop, premièrement, ça se fait tout de même sur le long terme. On travaille sur ces projets-là parfois plusieurs années. Est-ce qu'on tient compte des questions d'accessibilité universelle, par exemple, pour les loyers?
Oui, il y a effectivement, c'est-à-dire il y a le côté loyer, puis il y a le côté aussi physique. Quand on parlait tantôt du projet social, puis on parlait de l'abordabilité du loyer, mais on parle aussi du projet physique. Quand on parle du projet physique, on parle de l'accessibilité universelle, les entrées, une entrée avec une carte, c'est-à-dire un lecteur de carte, les ascenseurs, les parcours sans obstacle, surtout pour les personnes au fauteuil roulant, donc les balcons accessibles aussi, les logements qui sont adaptés, entre autres les comptoirs qui sont abaissés pour s'adapter à la position assise de la personne au fauteuil roulant, la possibilité aussi de bouger dans le logement, d'ouvrir une fenêtre, donc il ne faut pas qu'il y ait des contraintes ou des entraves qui limitent un petit peu d'accomplir la tâche et le parcours aussi de la personne en fauteuil roulant.
Oui, donc c'est ça, on pense vraiment en mode prévention. Finalement, on s'assure d'avoir un environnement qui peut déjà accueillir des gens de différentes situations plutôt que d'adapter lorsqu'il y aura une demande.
Oui, effectivement, lors de la conception, nous autres, déjà, on avait un certain nombre de logements qui étaient destinés pour des personnes au fauteuil roulant. Donc ça, on les adapte. Puis il y a aussi 100% des logements sont adaptables. Et quand on parle d'adaptables, c'est-à-dire que le logement est fait et construit de façon à ce qu'on ne dépense pas beaucoup de frais ou beaucoup d'argent pour adapter si jamais on a besoin, par exemple, de rendre un logement adaptable. Sur le 166 logements, on a une vingtaine de logements qui sont déjà adaptés au fauteuil roulant.
Oh, tout de même, c'est un chiffre intéressant. Justement, de ces 166 logements, ils sont faits pour accueillir des familles, des personnes seules, des personnes âgées autonomes, mais aussi on parle de personnes âgées avec des légers problèmes d'autonomie, des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des services qui sont disponibles pour ces personnes-là, des services précis?
Oui, et pour les personnes âgées, on a des services qui accompagnent le logement. On parle des repas, et on parle de la surveillance, et on parle des activités de loisirs aussi. Donc, en ce qui concerne les repas, on a une moyenne de 5 repas par semaine, ce qui est exigé par le programme Accès Logis. En ce qui concerne ce service, on a fait une partenariat avec la coopérative de soutien à domicile de Laval qui va gérer ce service, la cuisine collective. Et au niveau de la surveillance, on est en train d'élaborer le plan de surveillance. Donc, on a prévu déjà des systèmes d'appel dans un logement puis au bureau qui est raccordé à tous les logements. Donc, on est en train de regarder la formule la plus complète pour assurer la surveillance 24 sur 24 et 7, sur 7. Donc, il va y avoir certainement du personnel et puis aussi la collaboration des membres de la coopérative.
Mm-hmm. Il y a aussi, je lisais qu'il y a aussi une aide financière qui est destinée aux ménages économiquement plus faibles qui peuvent avoir donc cette aide supplémentaire pour pouvoir avoir un logement à la coop.
Oui. Là, on parle du programme de supplément loyer. Donc, on sait que Accès Logis peut être combiné aussi au programme de supplément loyer. Donc, la personne à faible revenu paye uniquement 25 % de son revenu annuel, ce qu'on appelle la part du ménage.
Mm-hmm.
Et la différence par rapport au loyer que la coopérative fixe ou... c'est-à-dire demande au ménage, c'est défrayé par le gouvernement en partie, puis la ville aussi, il y a une participation de la ville là-dessus. Donc, ce qu'on appelle le supplément loyer.
Mm-hmm. En terminant, justement, cette coopérative de solidarité du Bois-Hélène, elle ouvre ses portes bientôt. Reste-t-il des places? Comment on peut aller chercher plus d'informations si c'est le mode de vie qui nous intéresse?
Tout à fait, c'est un très beau projet. Puis le principe est là. On avait parlé de la sécurité des lieux. On avait parlé aussi de la solidarité au sein de ce projet. Donc, il y a place aux personnes au fauteuil roulant. Il y a place aux personnes âgées aussi. Donc, il faut juste se rapprocher du GRT, le groupe de ressources techniques de Laval, le réseau 2000+. Pour remplir le formulaire puis passer par le processus de sélection. Donc, il y a un comité de sélection qui travaille là-dessus. Et la personne, si elle est retenue, bien sûr, va continuer le processus pour avoir son logement.
Mm-hmm. C'est vraiment une très belle initiative. On vous souhaite un bon succès avec cette coopérative de solidarité du Bois-Hélène. Monsieur Aziz Denoun, vous êtes directeur général de groupe Ressources 2000+. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre projet aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Je vous remercie, madame.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Donc, c'est tout pour Ça vaut le détour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos entrevues sur la page de l'émission à vusetvoix.com. Je remercie mes invités, M. Aziz Denoun du groupe Ressources 2000+, Sarah Rouleau de la Fondation des aveugles du Québec, Nathalie Roy du camp Massawippi, et on avait commencé l'émission avec Isabelle Mollier de l'ABDITED, l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement. Je vous souhaite un bon week-end pascal. Lundi prochain, le 28 mars, Ça vaut le détour prend congé. On vous retrouve le mardi 29 mars. Je remercie mon équipe technique, à la recherche aux médias sociaux, Christiane Campagna, mise en nom de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.